Bonjour tout le monde. Comme d'habitude, je tremble. Mais ça va passer. Je commence à comprendre qu'au bout d'un moment, ça passe. On vient de vivre un moment vraiment fort. J'aime quand le Saint-Esprit se manifeste comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est Pentecôte, donc c'est la fête qui nous rappelle le jour où le Saint-Esprit est descendu, j'allais dire tombé, c'est presque ça. Il est descendu sur les disciples. Mais Pentecôte, c'est tous les jours. Pour nous, aujourd'hui, Pentecôte, c'est tous les jours. Le Saint-Esprit, il est là tous les jours. C'est 24 sur 24 et ça, c'est une grâce que le Seigneur nous a faite. C'est vrai que si on voulait être rigoureux, je serais censée vous parler du Saint-Esprit ce matin, mais je ne vais pas le faire. Les circonstances ont fait qu'on a choisi en équipe pastorale qu'on allait traiter d'un autre sujet aujourd'hui. Mais de toute façon, en arrière-fond, le Saint-Esprit est là. Si le Saint-Esprit n'était pas dans le contenu, ça servirait à rien. Ce serait charnel ce que je vous dirais, ce serait intellectuel, alors que le sujet, il est spirituel. Donc j'ai toujours l'intention de vous parler de la Sainte Cène. Je n'ai pas fini. On a parlé du pain, on a parlé de la base, on a parlé du pain. Le mois prochain, je vous parlerai du vin. Mais aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui fâche. On va parler de pissenlit. C'est vrai que c'est bien de recevoir des prédications sur la bénédiction, sur la délivrance, sur la restauration. On a besoin de tout cela. Ça fait du bien quand le Saint-Esprit vient nous rejoindre, qui vient justement faire vivre des choses qui étaient mortes en nous, etc. C'est vraiment nécessaire, on en a besoin. Mais on a aussi besoin d'être titillé là où ça fait mal. Pas pour avoir mal, mais pour tester notre abandon au Seigneur. Pour éprouver notre foi et pour discerner ce qu'il y a dans notre cœur. Donc aujourd'hui, on va parler d'argent. Voilà le sujet qui fâche. On va parler de fric. L'argent, c'est comme la sexualité. C'est un sujet qui fâche. Parce que Dieu a mis des règles. Et on a parfois bien du mal à les respecter, les appliquer et les accepter. Et ce sont des thèmes qui nous touchent tous. Peu importe notre culture, on y est tous confrontés. Peu importe notre statut social, l'état de notre compte en banque, notre profession, notre âge, etc., etc. On est tous concernés. Nous avons tous besoin d'argent. Et nous avons tous un rapport particulier à l'argent. Certains y sont attachés. D'autres y sont détachés. D'autres y sont liés. D'autres, ça dépend. On est tous mis au défi par rapport à l'argent. En posséder peu ou beaucoup ne fait aucune différence en termes de défi spirituel. Et lors de notre dernière assemblée générale, quelqu'un a demandé, mais est-ce que dans notre église ici, on fait une différence entre la dîme et les offrandes? Et non pour l'instant, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on ne faisait pas de différence. Maintenant, on va en faire une pour un projet particulier. Vous avez déjà vu le panneau qu'il y a dans le couloir par rapport au projet d'acheter des locaux. Et ça concerne les finances. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va traiter de ce sujet-là. Donc, on va essayer de faire d'une pierre deux coups. On va profiter de cet enseignement pour comprendre les principes bibliques et pour les mettre en application dans quelque chose de très concret, quelque chose qui va nous unir, un projet commun. Donc, comme d'habitude, ce n'est pas avec un message qu'on fera le tour du sujet. Si vous êtes intéressé, si vous avez besoin d'approfondir ce sujet, il y a beaucoup de livres qui sont à disposition, il y a des enseignements. Et voilà, moi, je vous encourage à approfondir parce que, mine de rien, c'est un sujet spirituel. Mais je vais poser juste des bases et puis on va déjà commencer comme ça. OK, ça, c'était l'intro. Attaquons. Donc, Jésus a beaucoup parlé d'argent. Il a énormément parlé d'argent. Moi, je n'ai pas fait les recherches, mais certains qui ont cherché à ma place disent que dans le Nouveau Testament, il y a 215 versets qui se rapportent à la foi, 218 au salut et 2084 se réfère aux finances ou à l'argent. Alors, donc sur 38 paraboles, à peu près la moitié parle d'argent et de finances. Donc Jésus avait-il besoin d'argent? Si on prend Luc 2, 1 à 7, « À cette époque-là parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme, Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. » Est-ce que Jésus est né pauvre? Non. Jésus n'est pas né pauvre. Il est né humble. Joseph et Marie ne manquaient pas d'argent. Mais si ils ont dû mettre Jésus dans une mangeoire, c'est parce qu'il y avait tellement de monde qu'il n'y avait pas de place. Ce n'est pas une question d'argent. Jésus n'est pas né pauvre. Et après la naissance de Jésus, ils ont eu la visite des mages qui sont venus apporter de l'encens, de l'or, de la myrrhe. Moi, je ne pense pas que ces mages, ils ont fait des kilomètres et des kilomètres et des jours et des jours et des jours de marche pour apporter une pièce d'or. Moi, je pense que la quantité, elle était significative. Donc même durant son enfance, Jésus n'était pas pauvre, mais humble. Dans Luc 6, 20, Jésus dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Il n'a pas dit « Heureux nous les pauvres ». Il ne se met pas dedans. Jésus n'était pas pauvre. Et Jésus a dit « Heureux vous les pauvres, ou vous qui êtes pauvres. » Il n'a pas dit « parce que vous êtes pauvres ». Mais ce verset, ça veut dire « heureux vous les pauvres » parce que à cause du royaume de Dieu qui vous appartient, en Jésus-Christ, par son sacrifice, vous allez pouvoir sortir de cet état de pauvreté. Pauvreté spirituelle, pauvreté financière, etc., comme on en avait déjà parlé. Et j'ai beaucoup aimé un verset de David, une prière de David, le roi David. Lorsqu'il est arrivé à la fin de sa vie, il avait le projet de construire un temple pour l'Éternel, parce qu'ils avaient que le tabernacle encore à ce moment-là. Et il voulait construire ce temple. Mais l'Éternel lui avait dit que ce n'est pas lui qui allait pouvoir le faire, mais son fils Salomon. Seulement, David, il avait ça sur son cœur. Il voulait faire un temple qui soit merveilleux, un temple qui dépasse tout ce qu'on avait vu. Donc, il a commencé à amasser, à préparer pour que son fils ait tout ce qu'il faut pour construire ce temple. Il a amassé de l'or, de l'argent, du bronze, du bois, enfin, du matériel précieux en quantité absolument phénoménale pour que Salomon puisse construire le temple. Et au moment de la fin de sa vie, quand il remet son mandat à son fils, et qui parle de cette construction du temple, voilà ce qu'il dit dans sa prière. « Qui suis-je en effet? Et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Moi, ça m'a énormément touchée. Tout ce que je donne, de toute façon, ça ne m'appartient pas. Je le reçois de Dieu. C'est tellement puissant, cette déclaration, cette conviction, cette révélation que tout vient de Dieu. Rien ne m'appartient. Donc, je dois être détachée de ce que je donne ou de ce que je reçois. Donc, David avait la conscience que toutes les richesses appartiennent à Dieu. Donc, non, Jésus n'était pas pauvre. Et Jésus n'est toujours pas pauvre. Je vous propose d'aller dans Matthieu 25, 14 à 30. Je vais vous le lire un peu rapidement, c'est la parabole des talents. Et les talents, en fait, c'est une unité de mesure. Ça peut représenter un sac d'argent et le poids de cet argent, c'est un talent. Comme ça pourrait être un kilo de pièces, par exemple. Donc, je vous le lis dans Second 21, où c'est traduit par sac d'argent. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens.
Il donna 5 sacs d'argent ou 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Quand Dieu donne, c'est en fonction de ce qu'on est capable de recevoir. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent. En voici 5 autres que j'ai gagnés. » Écoutez bien la réponse. Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent. En voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, écoutez bien la réponse, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes ou tu n'as pas semé, tu récoltes ou tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Et la suite, vous la connaissez, ce serviteur, ce mauvais serviteur, a été retranché. Mais si on prend les 2 premiers serviteurs, ils ont eu la même attitude, même qu'ils n'avaient pas reçu le même nombre de talents ou de sacs d'argent, ils ont eu la même attitude. En fonction de leur capacité, ils l'ont fait fructifier. Et le Seigneur leur donne exactement la même réponse. Celui qui s'est retrouvé avec 10 sacs n'a pas eu une meilleure réponse ou une meilleure récompense. Ils ont tous les 2 reçu la même récompense parce que leur état de cœur était identique, même si la somme finale n'était pas la même. Ils ont fait la même démarche. Et leur démarche, c'était de faire fructifier ce que le Seigneur leur avait donné. Donc Dieu nous demande non seulement de gérer ses biens, mais de les faire fructifier. C'est le commandement qu'il a déjà donné à Adam. Le premier homme a déjà reçu ce commandement. Dieu lui a dit de gérer, d'être l'intendant de la terre et de multiplier. Et ça ne s'arrête pas, c'est toujours valable. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Ça, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Le Seigneur aimerait qu'on ait assez, mais même qu'on ait plus qu'assez. Et quand il aimerait que tous nos besoins soient satisfaits, c'est nos besoins physiques, c'est nos besoins émotionnels, c'est nos besoins financiers, c'est nos besoins spirituels. Dieu aimerait qu'on soit comblé. Dieu n'aimerait pas qu'on soit pauvre. Donc avoir de l'argent, ce n'est pas une tare. Et parfois, dans le monde chrétien, on a presque honte quand on a de l'argent. Parce que Satan a instillé un esprit de pauvreté. Et moi, je vois que j'ai été énormément affectée par ça. Même si j'ai grandi dans une famille qui était, je peux dire, qui était aisée, même si on vivait très simplement, mais mon père avait un bon salaire qu'il a su gérer avec sagesse. Mais pourtant, était omniprésent cet esprit de pauvreté. C'est comme si on n'osait pas dire qu'on a de l'argent. Et c'est quand on est dans le manque, on s'en glorifie presque. Ça, c'est faux. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. Ça ne vient pas du Seigneur. Dans 3 Jean 1 et 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ça, c'est ce qu'on est censé faire. On est dans le Nouveau Testament, c'est pour aujourd'hui, c'est actuel, c'est dans la volonté du Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que prospérer ? Prospérer, si on cherche dans le Larousse, c'est être dans une situation favorable, une période de croissance, de développement. Donc, quand je prospère dans tout mon être. Quand mon âme prospère, ça veut dire que je développe ma relation avec le Seigneur, que le Saint-Esprit a toujours plus de place en moi, que je me développe, que je commence à porter du fruit, à me répandre à gauche et à droite pour bénir et pour vivre le royaume de Dieu. il faut faire la différence. Parce que quand je prospère au niveau financier, c'est subtil. Les richesses, ce n'est pas la même chose que la prospérité. Les richesses, elles viennent de l'extérieur, à l'intérieur. C'est-à-dire que je vais amasser de l'argent. Et puis, je vais aller le planquer dans un coffre dans une banque. Et je vais essayer, parce que ça ne me suffit pas, je vais essayer d'aller encore en amasser, que je vais ajouter en espérant que ça fera des intérêts. On sait que les intérêts, c'est plus grand-chose. Je ne sais même plus ce que c'est maintenant, les intérêts à la banque, tellement c'est minime. Mais voilà. Du coup, on ne sait jamais, il pourrait m'arriver un truc. Donc, je vais encore aller chercher d'autres richesses que je vais amasser et les planquer à la banque. Ça, ce n'est pas de la prospérité. C'est de la richesse. Je peux être riche et pauvre. La prospérité, c'est plutôt quand je commence, j'ai peu d'argent, mais je me développe, je prospère au niveau financier, au niveau professionnel, et petit à petit, mon revenu, il augmente. Il augmente et il augmente. Je prospère. Il fait des petits. Il augmente, il augmente. Le danger, c'est qu'en voyant tout ça, j'en fasse des richesses que je reprenne à moi et que j'aille planquer dans un coin. Ou alors, je vais mettre en place les principes du royaume et ces richesses, cette prospérité, il y en a une partie que je vais utiliser pour moi parce que j'en ai besoin. J'ai même le droit d'avoir des loisirs. J'ai le droit d'aller m'acheter des habits qui me font plaisir. Ça ne veut pas juste dire manger, tchac, 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 juste ce qu'il me faut et puis pas un gramme de plus et puis juste m'habiller et puis remettre la même chemise pendant 3 semaines. Ça ne veut pas dire ça. Je peux me faire plaisir, mais je dois soumettre ces choses-là au Seigneur et que le surplus et peut-être le nécessaire à certains moments puisse bénir, puisse participer au royaume de Dieu. Et là, je vais continuer à prospérer. Donc il faut bien faire cette différence. Le Seigneur nous demande de prospérer. Il ne nous demande pas de faire des richesses injustes. Il ne nous demande pas de planquer notre butin juste par crainte, par peur, par égoïsme, etc. Donc l'esprit du royaume dans les finances parle d'abondance. Ce n'est pas juste assez, c'est beaucoup. Il parle de prospérité. Dieu ne veut pas que ses enfants soient pauvres, il désire qu'ils soient prospères dans tous les domaines. Si on prend encore un verset dans Jacques 1, 9, 10, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Il n'y a pas marqué que le frère se glorifie de sa pauvreté, que le frère de condition humble se glorifie de sa condition humble. Il y a marqué qu'il se glorifie de son élévation. Ça veut dire qu'il est parti tout en bas, mais il a pu s'élever. Il n'est pas resté dans sa condition. Et là, ce n'est pas une question de condition humble ou orgueilleuse. Ce n'est pas dans ce sens-là. Il est parti de simplicité financière, de peu de moyens, mais il a pu les faire fructifier, multiplier, prospérer, et il s'est élevé. C'est de ça qu'il se glorifie. Tandis que le riche, au niveau de son âme, au niveau de ses intentions, de sa motivation, ce n'est pas de l'élévation ce qu'il fait. Il amasse. Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si mon cœur il est attaché avec tout ce que j'ai amassé dans mon coffre en banque, mon cœur doit être bien à l'étroit, au froid, dans la grisaille. Voilà. Et voilà ce que Jésus nous dit, un verset qui a été mentionné ce matin d'ailleurs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. La gestion de nos finances et notre rapport à l'argent peut être soit charnel, soit un acte d'adoration. La gestion de nos finances, c'est complètement spirituel. Donc une gestion charnelle répondra aux principes économiques du monde avec les conséquences selon l'esprit du monde. Une gestion spirituelle, tel un acte d'adoration, répondra aux principes économiques du royaume avec les conséquences relatives à l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont ces principes? Les principes économiques du royaume de Dieu, c'est donner et recevoir. C'est simple. On sait que Satan n'a rien inventé, on sait qu'il copie, mais qu'il pervertit. Principe économique de ce monde, donc on sait que Satan est le prince de ce monde, on vit dans ce monde, mais on n'est pas obligé de se soumettre à ces principes. Acheter et vendre. C'est simple. Lorsqu'on achète, on obtient quelque chose qui correspond à la valeur de la somme engagée dans la transaction. En quelque sorte, c'est donnant-donnant. J'en ai pour mon argent. On est dans le domaine de l'addition et de la soustraction. Même l'argent que j'ai planqué dans mon coffre, il y a des intérêts, mais ils sont tellement minimes que c'est des petites sommes qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent. C'est de l'addition. L'argent que je dépense se soustrait. C'est simple. Si je donne mon argent, logiquement, j'en aurai moins. Les riches sont toujours plus riches, les pauvres sont toujours plus pauvres. C'est l'occasion pour Satan d'instiller un esprit d'injustice, de manque, de besoin, de luxure, d'égoïsme, de cupidité, etc. Donc si je vis dans l'esprit du monde, ma source, c'est mon employeur, c'est mon conjoint, c'est mon assurance AI, c'est mon assurance vieillesse, c'est mon assurance chômage, c'est mes économies, c'est mon héritage, etc. L'argent a donc autorité sur moi. Je place ma confiance en lui et je deviens son esclave. Et pour Satan, tout ça, c'est bénéf. Parce qu'avec la peur de manquer, un esprit de pauvreté, une mentalité de radin, la soif de posséder, le désir effréné d'amasser, etc., etc., va faire que je vais m'enfoncer de plus en plus, m'attacher de plus en plus à l'argent, devenir idolâtre et adorer celui qui a derrière, Satan. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut de chacun d'entre nous. On vit dans le monde, mais on n'est pas soumis aux lois spirituelles du prince de ce monde. Alors voilà ce que Jésus nous enseigne. Dans Matthieu 6, 24, vous pouvez lire tout le chapitre de Matthieu 6. C'est vraiment intéressant par rapport à ça, par rapport aux finances, par rapport à notre état de cœur, par rapport à notre relation qu'on a avec l'argent, avec nos besoins, avec nos peurs de manquer ou pas, et comment Jésus s'occupe de nous. Je vous encourage à aller lire ce chapitre. Jésus nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. » Donc mammon, ce n'est pas l'argent. Là, on n'est pas en train de servir l'argent. Mammon, c'est un ancien terme araméen qui signifie le dieu de l'argent. C'est différent. Là, on est vraiment dans quelque chose de spirituel. C'est le dieu des finances. C'est la puissance démoniaque qui pousse les êtres humains à adorer l'argent. Et c'est impossible d'adorer Dieu et d'adorer le dieu de l'argent. On doit choisir. Et tous les faux dieux sont des entités démoniaques. Donc tous les faux dieux, des entités spirituelles qui nous poussent à donner notre adoration à Satan. C'est ce qu'il veut depuis la nuit des temps, depuis la chute. Timothée nous dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Ce n'est pas l'argent la racine de tous les maux. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'argent, on en a besoin. Donc l'argent n'a jamais été conçu pour être mon maître, mais au contraire, pour être mon serviteur et même mon esclave. Matthieu 6, 19 à 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc si je veux que l'argent soit mon esclave et que mon cœur soit tout à Dieu, il faut que je connaisse les principes du royaume. Donc on a vu que les principes du royaume, c'est donner et recevoir. Et c'est de la multiplication. Mais ce n'est pas la même multiplication qu'on a appris à l'école. C'est encore mieux. Les principes économiques du monde, on a vu acheter et vendre, et ce sont des additions et des soustractions. Là, on n'est pas dans la même puissance. Donner est un acte d'adoration. Donner et recevoir. Donner est un acte d'adoration, mais seulement si mon cœur est pur. C'est facile de donner quand on a de l'argent. Mais c'est très dangereux. Parce que si mon cœur n'est pas pur, je vais m'enorgueillir. Tiens à toi qui es dans le besoin. Je pourvois à tes besoins. Ce n'est pas un acte d'adoration. Quand on a peu, puis qu'on veut donner, si notre cœur n'est pas pur, c'est tiens, prends, mais laisse-le moi. Ça ne va pas. l'acte d'adoration, quand on donne, ça doit être le débordement du cœur, peu importe la somme. Quand mon cœur déborde parce que j'ai envie de donner, là je fais un acte d'adoration. Recevoir est souvent aussi difficile, surtout pour nous ici en Suisse et dans nos montagnes, à Chaux-de-Fonds. On est tellement orgueilleux. Recevoir. Recevoir, dans notre mentalité tordue, c'est l'autre pourvoit mes besoins. Je suis inférieur. Catastrophe. Qu'est-ce que je peux faire pour lui rendre? Ce n'est pas un acte d'adoration. Recevoir, sans rien donner en retour, si ce n'est notre reconnaissance. C'est difficile parfois. On a eu un exemple flagrant à Noël, quand on a fait la crèche vivante là-dehors, puis qu'il y avait un super stand avec tous les cakes et les boissons et les bracelets et les gaufres, etc., offertes à tous les passants. À un moment donné, il a fallu mettre des tirelires parce que les gens étaient tellement mal à l'aise de juste recevoir qu'ils voulaient donner quelque chose. Alors, nous, ça nous a bénis, hein, il n'y a pas de problème, voilà, on saura quoi en faire. Mais ça montre l'état du cœur. Recevoir sans rien donner en retour, qu'est-ce que c'est difficile dans notre mentalité? C'est important de voir, mais qu'est-ce qui se passe en moi quand j'ai du mal à recevoir? Donc, que ça devienne un acte d'adoration, donner et recevoir, ce n'est pas si évident que ça. On est mis au défi. Donc, pourquoi est-ce que les principes du royaume, c'est de la multiplication? C'est parce que ce qu'on va donner, ce qu'on va investir comme argent, c'est de la semence. Et ça, s'il y a quelque chose qu'il vous faut vraiment comprendre ce matin, c'est ça. C'est un principe de semence. Parce que quand on sème une graine, elle donne une plante. Et cette plante va donner d'autres graines qui vont donner d'autres plantes, etc., etc. Voilà mon pissenlit. Je suis une des premières à aller virer toutes les fleurs avant que ça mûrisse pour pas que ça se ressème dans mon jardin. Parce que pour le gazon, je trouve que ça va pas. Mais quand on regarde cette fleur de près, elle est juste merveilleuse. Et en plus de ça, elle a des vertus thérapeutiques. Voilà ce que devient un pissenlit quand il mûrit. Enfin, quand il fleurit. Les termes de botanique, je les mets de côté. Voilà quand il arrive au bout. Vous savez, une fleur de pissenlit, combien elle peut avoir de graines? Environ 200. Un petit pissenlit peut donner environ 200 graines. Est-ce que ce n'est pas de la multiplication, ça? Donc, si on comprend ce principe, quand je me place dans une position de foi, que je vais faire une offrande, que je vais investir mon argent, ou même des fois c'est une parole, des fois c'est une prière, mais là on est dans le sujet des finances, je vais semer dans la foi qu'il va se passer quelque chose, mon pissenlit, voilà ce qu'il devient. Il va se répandre. Et c'est Dieu qui fait ensuite, qui fait la multiplication. Nous, on doit juste semer. On n'est pas capable de faire plus que semer. Lui, il se débrouille de la manière où il va multiplier. Donc, c'est important de comprendre que tout nous vient de Dieu. Je dépends de la providence de Dieu. Moi, je donne juste ma semence. C'est un bon exercice de lâcher prise. Je vous inviterai à lire dans Matthieu 6. Je ne vais pas tout lire maintenant parce que ce serait peut-être un peu long, mais Dieu, il nous garantit qu'il pourvoira toujours à nos besoins. C'est le passage où il dit qu'il s'occupe des fleurs des champs. Pourtant, les fleurs des champs, elles ne font que passer. Un jour, elles sont belles, le lendemain, elles sont sèches, on les fauche, et puis c'est fini. Et pourtant, elles sont mieux revêtues que Salomon. Et il nous dit qu'il ne faut pas avoir peur, parce que même les oiseaux, les spatz, les moineaux qu'on a tout autour de nous, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, et pourtant Dieu les nourrit. Est-ce qu'on ne vaut pas plus qu'eux? Bien sûr. Donc il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur quand on donne. Ce passage-là que Jésus nous dit, c'est celui qui dit à la fin, mais recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc quand vous gérez votre argent, recherchez le royaume de Dieu et sa justice, et vous verrez comment Dieu va s'occuper de vous. J'en viens enfin au sujet de la dîme et des offrandes. Mais c'est vraiment important de comprendre ce principe de la semence. Donc la dîme, d'où c'est qu'il vient ce mot? Ça vient en hébreu de maaser. Il y a plusieurs termes en grec qui veulent dire exactement la même chose, qui veulent dire la dixième part, la dixième portion, la dixième partie, et donc le 10%. C'est aussi simple que ça. Donc, donner la dîme, c'est donner le 10% de notre revenu brut. Pourquoi brut? Qu'est-ce qu'on met dans le net? Qu'est-ce qu'on met pas? Les assurances, lesquelles, pourquoi, pourquoi pas? Si je mettrais encore un petit peu ça, ben, j'en aurais encore un peu plus pour moi. Dès qu'on commence à se poser ces questions-là, est-ce que c'est le net ou est-ce que c'est le brut? On a laissé entrer l'esprit de maman. Je suis déjà en train de calculer. Parce que j'ai peur. Parce qu'en fait, 10%, ça représente quand même pas mal. Surtout quand c'est brut. Parce que mon salaire brut, moi, je ne le perçois pas. Enfin, je ne vois pas que je le perçois. Moi, je reçois sur mon compte en banque seulement le net. Donc, ça fait beaucoup. Mais toutes ces réflexions-là, c'est l'esprit de maman. Quand notre cœur est complètement libéré de la peur de manquer et quand on a tellement compris, on a reçu ces révélations que Dieu pourvoit nos besoins, ce n'est pas un problème.